Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Choulin, page 5, Daf He. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara répond Lo ave maflig nafshe. Yehoshaphat ne pouvait, lors de ce festin, être suspicieux et se séparer de Achav, au point de vérifier qu'il ne mangeait que de la viande qui provenait de tel ou tel shrita. Minalan, d'où sait-on cela? Demande la Gemara. Il est madirtiv kamoni kamocha kami kamcha. Tu es comme moi et mon peuple est comme le tien. Le roi Yehoshaphat s'identifie au roi Achav, ce qui sous-entend qu'il lui fait confiance, donc même au niveau de la cacheroute. La Gemara demande, et la meata kesusi kesusecha achinami. Peut-on dire que telle est réellement l'intention du Passouk, alors que la suite compare ses chevaux avec les chevaux de Achav? On voit donc que l'intention de Yehoshaphat dans ce verset n'est pas du tout de comparer au niveau de la halakha, mais au niveau des destinées. S'il y avait une guerre, et la madeavea susecha teavea susi, le sort qui serait réservé à tes chevaux serait également celui qui serait réservé à mes chevaux, à Hanami, et on devrait expliquer de même le début du verset, Maïdea ve'alecha ve'ilave amecha, te'a ve'alai ve'ilave ami. Le sort qui m'attendrait et qui attendrait mon peuple serait identique au sort qui t'attend et qui attend ton peuple. Elamecha, c'est donc d'un autre verset que l'on apprend que le roi Yehoshaphat ne pouvait se dissocier du roi Achav et choisir telle ou telle viande pendant le repas. Ou Melech Israël ve Yehoshaphat Melech Yehuda, Yoshvim Ish al Kiso, Melubashim Begadim, Begoren Petar Shar Shomron. Le roi Achav et le roi Yehoshaphat étaient installés sur leur trône, vêtus d'habits princiers, dans le Goren, la grange, à l'entrée de la porte de Shomron. Maï Goren, quel est ce Goren, cette grange? Il est ma Goren Mamash, si tu veux dire qu'il s'agit réellement d'un Goren, c'est-à-dire une grange ou un entrepôt de blé, à Tushar Shomron Goren avant. Est-ce que la porte de Shomron était un Goren, un entrepôt de blé? Et là, qui Goren? Non, c'est plutôt pour dire qu'ils étaient installés en forme de Goren, c'est-à-dire en demi-cercle, ainsi que siégeaient les membres du Sanhedrin, et chacun pouvait regarder l'autre. Ils étaient en toute confiance, et il n'y avait pas entre eux de suspicion. D'Etnan, ainsi qu'il est enseigné dans la Mishnah de Sanhedrin. Sanhedrin aita kechatsi goren agula, kedeshi yuroin ze etze. Le Sanhedrin siégeait en forme de demi-cercle, de façon que chacun puisse voir les autres membres du Sanhedrin. L'imam est sayale. La Gemara apporte maintenant une nouvelle preuve à l'enseignement de Rav Hanan au nom de Shmuel, selon lequel, si un Yehudi qui pratiquait l'idolâtrie a effectué une shrita, un abattage rituel, il sera permis de manger de la viande de cet animal. Ve'aorvin mevin lo lechem ubasar ba boker ve'lechem ubasar ba erev. Devant la conduite odieuse du roi Achav et de sa femme Isabel, Eliyahu Hanavi avait juré qu'il n'y aurait plus de pluie dans le pays pendant 3 ans. Il s'était ensuite sauvé par peur des représailles et s'était caché dans une grotte à côté du Yarden. Là, il buvait de l'eau du fleuve. Et, ainsi que dit le verset qui est rapporté par la Gemara, des corbeaux lui amenaient viande et pain matin et soir. Ve'amar Rav Yuda Amar Rav. Rav Yuda dit on de Rav pour expliquer quelle était la provenance de cette viande. Mibet Tafre de Achav. Cela provenait des cuisines du roi Achav. C'est donc que cette viande était kshera, bien que le roi Achav pratiquait l'idolâtrie. La Gemara répond Alpi Adibur Shahane, étant donné que Eliyahu Hanavi avait cette attitude par ordre divin, il s'agit d'une situation toute particulière de laquelle on ne peut extrapoler. La Gemara demande « Mai Orvin ». Que sont ces Orvin dont on parle dans le verset qui apportaient à Eliyahu Hanavi chaque jour viande et vin? Amar Ravina, Orvin Mamash. Ravina dit « Il s'agissait de réels corbeaux ». Amar le Rav Ada Bar Minyome, Rav Ada Bar Minyome lui a demandé « Vedilma tre gavre de Aveshmayaou Orvin. Peut-être s'agissait-il de deux personnages dont le nom était Orev pour pour chacun d'entre eux. C'est d'ailleurs un nom que l'on trouve employé dans le verset. Miloktiv vayargu et orev betzor orev veet zeev. Ils ont tué un dénommé Orev et Zeev. Amarle itramai milta de tarvayu aveshmayu orvim. Il lui a répondu par une question. N'est-il pas extrêmement improbable que le nom de ces deux hommes soit Orev pour chacun d'entre eux? La Gemara propose une autre possibilité. Vedilma al-shem mekoman. Peut-être qu'on les appelait ainsi par rapport à leur lieu de provenance. Ils habitaient un endroit nommé Orev, on les appelait donc Orvim. Miloktiv ve'aram yatsuk dudim ve'yeshvu me'eretz Israël na'araktana. Deux Aram sont sortis en bataillon et se sont installés en Eretz Israël. Et il y avait une jeune fille petite. Ve'kashyalan, ce texte présente une difficulté. Karela na'ara ve'karelaktana. On l'appelle à la fois jeune fille, adolescente, et on l'appelle également petite, enfant. Ve'amar Rav Pedat, Ktana, demin Neuran. C'était une petite fille qui provenait de l'endroit nommé Neuran. Donc Nahara n'est pas employé ici en tant que nom, mais en tant qu'adjectif. Imken, Orviyim, Mibaele. La Gemara réplique, si c'était réellement le cas que Orvim était un adjectif qui indiquait la nationalité des deux hommes, il aurait fallu dire Orviyim avec deux yud. Tosfot précise, il est vrai que l'on trouve parfois le mot Mitzrim, égyptien, avec un seul yud, mais étant donné que dans notre cas de Orvim, il y a lieu de se tromper, le verset aurait dû, pour éviter la confusion, transcrire le mot Orvim avec deux yud. Il demande également pourquoi aller chercher un verset tellement éloigné pour montrer que l'on peut nommer les gens par un adjectif qui désigne leur lieu de provenance ou leur nationalité. Il y a de cela dans la Torah une multitude d'exemples, Amoni, Plishtim, Givonim. La réponse est que dans tous ces exemples de la Torah, on dénomme en fonction de leur lieu de provenance, de leur terre, le peuple entier. Alors que la Gemara cherche ici un exemple où l'on dénomme un seul individu par son lieu d'origine. Maseret Roulin, suite du cours sur le Daf Hei, le Ritva demande pourquoi la Gemara tient-elle comme quelque chose de pratiquement impossible le fait que deux hommes aient pour prénom Orev. Au sujet de ces hommes qui venaient matin et soir prodiguer à Eliyahu Hanavi qui était caché de la viande et du pain. Le Ritva répond, il est certain que les hommes qui venaient apporter de la nourriture à Eliyahu Hanavi ne pouvaient être les mêmes chaque soir et chaque matin. En effet, la reine Isabelle, qui était à l'affût de tous les Yehoudim qui restaient attachés à la Torah, aurait remarqué leur absence matin et soir. Il est donc très probable que ce n'étaient pas les mêmes personnes chaque jour. Il est donc impossible que tous ces gens aient le même prénom. Nous reprenons la Gemara à la fin de la 23e ligne. Lema Messayale, peut-on trouver un appui à l'enseignement de Ravanan dans la braïta suivante? A Kol Shofatim, Veafilu Kuti, Veafilu Arel, Veafilu Israël Mumar. Tout le monde peut effectuer la Shrita, même un Kuti, même un Arel, un incirconcis, et même un Yehudi renégat. Aï Arel Echidame. À quel cas précis la Braïta fait-elle allusion en employant le mot Arel? Il est ma shemetu achiv mahamat mila. S'il s'agit du cas où les frères de cet homme sont morts suite à la brit mila, Aï Israël me'aliahu. C'est un Yehudi tout à fait kasher. Et dans ce cas de force majeure, il lui était d'ailleurs interdit de pratiquer la brit mila, qui mettait en jeu sa vie. Et la pshita, mumar le'arelut. Il est donc évident qu'il s'agit d'un renégat, quelqu'un qui refuse délibérément de pratiquer la brit mila, dans le cas où il est déjà adulte. Emma Seifa, je te ferai remarquer à partir de la fin de la braïta, Vafil Israël Mumar, qui inclut même le cas d'un Yehudi renégat, Echidame. De quel cas parle-t-on? Imumar le davar echad, Ainu Mumar le arelut. S'il s'agit d'un renégat dans un domaine de la Torah, ce cas revient à celui de l'homme qui est renégat en ce qui concerne la pratique de la Brit Mila, et à ce moment-là, l'enseignement de Mumar est déjà inclus dans le début de la Brita. Et la lave, Mumar la Vodat Kochavim. On doit donc dire qu'il s'agit d'un Mumar particulier, un renégat en ce qui concerne l'idolâtrie, ou que des Ravanan.
Et nous avons alors une preuve à l'enseignement de Rav Hanan, car nous voyons qu'un renégat dans le domaine de l'idolâtrie peut effectuer une shrita kshera. La Gemara rejette cette proposition. Lo. Leolam emalecha mumar levodat kochavim. Lo. On ne peut dire que le mumar évoqué par la Braïta inclut le mumar en ce qui concerne la vodazara, car il y a une gravité dans l'idolâtrie qui n'existe dans aucune autre avera. De amarmar chamura avodat kochavim shekol hakofer ba kemodeh bechol haTorah kula. L'idolâtrie est un domaine tellement grave que toute personne qui y renonce, c'est comme si elle acceptait la Torah tout entière. Et là, Mumar le Otodavar, Ugderava. Il faudrait donc dire que le Mumar dont il est question à la fin de la Braïta inclurait plutôt le cas d'un Mumar, d'un renégat en ce qui concerne la consommation de viande non cachère, par plaisir. La Shrita de ce Mumar serait cependant Kshera, et le Chidush, la nouveauté halachique de la Braïta, serait qu'il ne faut pas considérer que du fait que ce Mumar est tellement habitué à consommer de la viande non cachère qu'il soit incapable de faire une shrita kshera. Métivé, la Gemara va maintenant poser une question sur l'enseignement de Ravuna. Mikem, dit le verset, velokulchem. La Torah dit au début du Chumash Vaikra, Adam qui akriv Mikem korban lachem, mina behema, mina bakar, mina tson takrivu, et korbanchem. Lorsqu'un homme parmi vous approchera un korban pour Hachem, il le prendra parmi les animaux domestiques, gros ou petit bétail. Le mot mikem, parmi vous, est ici expliqué par la Gemara de la façon suivante. Mikem, une partie d'entre vous, velo kulchem, pas tous, leotiet amumar, c'est-à-dire que l'on ne recevra pas le korban, le sacrifice du mumar, du renégat. La Gemara donne une seconde explication sur ce mot. Mikem, bachem chilakti, velo beumot. C'est parmi vous, peuple d'Israël, que j'ai fait la différence et décrété qu'il y en a certains de qui on ne recevra pas le sacrifice, à savoir le Moumar. Velo beumot. Mais en ce qui concerne les autres nations, tout individu peut apporter un sacrifice au Beth Amikdash. La Gemara interprète le mot suivant du verset, mina behema, des animaux domestiques, les avi bnei adam, chez domine la behema. Ceci inclut les gens qui ressemblent à des animaux. Il s'agit des fauteurs qui suivent leurs tendances instinctives sans que leur esprit ne puisse intervenir. Mikan amru, mikablim korbanot mi poshei Israël, kedesh yarzeru baem bitshuva, chutz mina mumar, u menaser tayain, u mechalel shabbatot befaresia. À partir de cette explication, les sages ont dit, on peut recevoir les sacrifices des fauteurs parmi le peuple d'Israël afin de faciliter leur teshuva, leur retour vers la Torah, sauf s'il s'agit d'un mumar, un renégat, ou de quelqu'un qui offre du vin aux idoles, ou de quelqu'un qui transgresse le Shabbat en public. La Gemara analyse maintenant cette braïta tirée de Torah de Kohanim. Agouf Akashia. Il y a une contradiction interne. Amarta mikem velokulchem leotiet amumar. Tu as dit que du mot mikem, on apprend que l'on ne recevra pas les korbanot qui sont apportés par un mumar. Ve'adartane mekablim korbanot miposhe Israël. Et ensuite tu enseignes que l'on reçoit les korbanot des fauteurs d'Israël. La Gemara répond, halokashia. Ça n'est pas difficile à comprendre. Recha mumar le kol haTorah kula. Au début, il s'agit d'un cas où le renégat renie l'ensemble de la Torah. Metziata mumar le davar echad. Dans la suite de la Braïta, en revanche, il s'agit de quelqu'un qui renie une seule mitzvah. Ema seifa. Je vais alors te confronter à la fin de la Braïta. Chutz mina mumar ou menaser tayain ou mechalel shabbat befaresia. Lorsque l'on a dit qu'on n'acceptera pas de korban, du renégat ou de celui qui pratique l'idolâtrie ou qui transgresse en public le Shabbat, Haï Mumar et Chidame. De quelle sorte de Mumar, de renégat, s'agit-il dans cette dernière partie? I Mumar l'Echol Torah Kula, Aïnu Recha. S'il s'agit de quelqu'un qui renie l'ensemble de la Torah, nous avons déjà appris cet enseignement dans le début de la Braïta. Ve I Mumar l'Edavar Echad, Kashia Metziata. S'il s'agit d'un renégat dans un seul domaine, nous aurons des difficultés avec la seconde partie de la Braïta, dans laquelle on enseigne qu'un tel moumar peut apporter un korban au Beit HaMikdash. Et la lave, achika amar, chutz mina moumar lenaser tayain, ou lechalel shabbatot befaresia. Nous n'avons donc pas d'autre alternative que de lire la fin de la Braïta de la façon suivante, que le moumar dont on n'accepte pas le korban, est justement celui qui pratique l'idolâtrie en offrant du vin, ou qui profane en public le shabbat. Et le renégat dont parle la fin de la Braïta n'est donc pas un troisième cas de gens dont on refuse le korban, mais un terme générique que la Braïta détaille par la suite. Il s'agit d'un renégat, soit dans le domaine de l'idolâtrie, soit dans le domaine de la profanation du Shabbat en public. Alma mumar levodat kochavim, have mumar lechol haTorah kula. Il ressort de cette Braïta qu'un renégat dans le domaine de l'idolâtrie a le même statut qu'un mumar lechol haTorah kula, d'un renégat dans l'ensemble de la Torah. Vetiufta de Ravanan, tiufta. Ceci constitue une réfutation sans appel au din de Ravanan, qui pensait que l'on pouvait consommer un animal dont un renégat dans le domaine de l'idolâtrie aurait fait la shrita. Cette gemara constitue une bonne preuve pour le commentaire Lechem Mishneh dont on a parlé plus haut, qui disait que la tshuva d'un moumar, d'un renégat dans le domaine de la vodazara, de l'idolâtrie, n'est pas acceptée. Comme dit le verset, Kol ba'alea lo yeshuvun velo yasigu ochot raim. Ceux qui sont plongés dans la vodazara ne peuvent s'en détacher et revenir à la Torah autrement que par la mort. Et lorsque la Braïta a dit que l'on pouvait recevoir les sacrifices apportés par les fauteurs d'Israël, ceux qui ressemblent à des animaux, c'est-à-dire ceux qui renient un domaine de la Torah, une mitzvah. Pour cela, effectivement, le fait d'accepter leurs sacrifices va les aider à revenir vers la Torah. Mais en ce qui concerne le moumar dans le domaine de l'idolâtrie, il n'y aura pas d'intérêt à recevoir ce sacrifice, car de toute façon, sa teshuva ne sera pas acceptée. Il restera en conclusion une question sur le roi Yehoshaphat. Comment a-t-il pu, dans ces conditions, profiter de la Seouda que lui a offert Achav? Il est peut-être possible de dire, comme nous l'avons cité au nom du Sefer Chafetz Hashem, que Achav avait fait teshuva par rapport à Hashem, même si les hommes ne peuvent tenir compte de cette tshuva, car il était un renégat dans le domaine de la Avodah Zara, et Yehoshaphat pouvait tenir la halakha comme Rav Hanan, que la shrita d'un tel moumar est acceptée. Reprenons la Gemara. Veha me'acha nafka, me'atam nafka. Le din que l'on vient d'étudier, qu'on ne reçoit pas de korban d'un moumar dans le domaine de l'idolâtrie. Est-ce bien de ce verset qu'on l'apprend, de Mikem velokulchem? Or, nous avons pour ce din une autre source. Tournons la page.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf He, à Moudbet.
Me'am ha'aret, prat le mumar. Lorsque le verset dit dans Vaikra, Dalet, Kavzain, veim nefesh achat techeta bishgaga me'am ha'aretz. Si une personne faute involontairement, personne faisant partie du peuple de la terre, le mot me'am ha'aretz exclut le moumar, le renégat. Rabbi Shimon ben Yossi Omer, Mishum Rabbi Shimon, Asher lota asena bishgaga ve'ashem. Le verset dit dans le même chapitre, celui qui apporte un korban et quelqu'un qui a commis une faute de façon involontaire et a ensuite pris conscience de sa faute. Achav miediato mevi korban al shgigato, eno shav miediato eno mevi korban al shgigato. Ne peut apporter un korban seulement une personne qui, si au moment de la faute elle avait su qu'il s'agissait d'une faute, elle n'aurait pas commis cette faute. Mais s'il s'agit d'un type de fautif qui, au moment où il a fauté, même s'il avait su qu'il s'agissait d'un acte interdit, il l'aurait fait quand même, celui-là ne pourra pas apporter de korban, même si par la suite, il fait teshuva. Car une telle personne ne peut être qualifiée de shav miediato, c'est-à-dire quelqu'un qui est revenu du niveau de connaissance qu'il avait au moment de la faute. Ainsi, Le korban ne peut être apporté et ne peut procurer de kapara, de pardon, à un fautif, seulement si au moment de sa faute, s'il avait su qu'il s'agissait d'un acte interdit, il aurait arrêté de le faire. C'est pour cela qu'un moumar, un renégat, ne peut apporter de korban, car au moment de la faute, même s'il avait su que c'était un acte interdit, il l'aurait quand même fait. Nous avons donc dans cette braïta deux avis, Tanakama et Rabbi Shimon ben Yossi, qui tous les deux s'accordent à dire qu'un moumar n'apporte pas de korban. Le Tanakama, le premier avis, exclut le moumar à partir du verset Me'am Ha'aretz, et Rabbi Shimon à partir du verset Asher Lota Asena Bishgaga Ve'Hashem. La Gemara demande Maï ben Ayou, dans quel cas concret peut-on trouver une différence entre ces deux avis? Ve'amar Rav Amnuna, Rav Amnuna répond Moumar lechol chelev, vevi korban al adam, ika ben ayou. Il s'agit du cas d'un moumar lechol chelev, quelqu'un qui se permet de consommer des graisses interdites, du chelev, et qui aurait de façon involontaire consommé du sang. D'après le premier avis de la Braïta, qui exclut le moumar du verset Me'am Ha'aretz, étant donné que dans ce cas, nous sommes en présence d'un moumar, un renégat qui se permet de manger des graisses interdites, il ne sera pas non plus question qu'il amène un korban pour le sang qu'il a mangé involontairement, alors que selon Rabbi Shimon, pour qui ce qui compte est le niveau de connaissance et de conscience qu'avait la personne au moment de la faute, cet homme-là est certes moumar en ce qui concerne la consommation de graisses interdites, mais pas en ce qui concerne la consommation de sang. Et si au moment de l'action, il avait su qu'il s'agissait du sang, il s'en serait certainement abstenu. Il pourra donc, d'après Rabbi Shimon, apporter un korban sur la consommation de sang par inadvertance. Rappelons que la Gemara est en train de confronter deux textes, deux braïtot, qui toutes deux interdisent au moumar d'apporter un korban à partir de sources différentes dans la Torah. Or, il semble a priori y avoir une grande différence entre ces deux braïtot, car la seconde, celle dont nous venons de parler, parle d'un moumar en ce qui concerne la consommation de chélev uniquement, alors que le moumar dont on refuse le korban dans la première braïta est uniquement un renégat sur l'ensemble de la Torah. À ce moment-là, les deux braïtot donneraient des enseignements différents et la comparaison de la Gemara serait incompréhensible. C'est Tosfot qui pose cette question, et ils répondent de la façon suivante dans une première réponse. Lorsque Rav Amnuna dit qu'il s'agit d'un moumar quant à la consommation de chélev, de graisse interdite, ça n'est pas seulement sur le chélev que cet homme est moumar, mais également sur le chélev. Il serait plus juste de dire qu'il n'y a que sur la consommation de dame, de sang, qu'il n'est pas renégat. Il s'agit donc bien d'un renégat sur l'ensemble de la Torah, Avodah Zarah y compris, et qui simplement s'abstient de consommer du sang. La comparaison de la Gemara entre les deux textes est donc tout à fait justifiée. La Gemara répond Chada bechatat vechada beola. La première braïta, qui exclut le moumar et lui interdit d'apporter un korban par le mot mikem, parle de korban ola, un holocauste brûlé intégralement. Dans la deuxième braïta, où l'on interdit au moumar d'apporter un korban par le verset Me'am Ha'aretz, il s'agit d'un korban chatat, un sacrifice expiatoire duquel les kohanim consomment une partie. La Gemara dit Vetzriche, j'ai besoin des deux enseignements car je n'aurais pu déduire l'un de l'autre. Dei Hashmoinan chatat, Mishum Delechaparahu. Si on nous avait enseigné seulement qu'un moumar ne peut apporter de korban chatat. Ce korban est toujours apporté lorsqu'il y a eu transgression involontaire, transgression à laquelle ce korban procure le pardon. On comprendrait tout à fait que le moumar qui agit de façon délibérée est exclu de ce pardon. Aval ola de doron hu et malekabel mine. Mais étant donné que le korban ola est essentiellement un cadeau et pas une kapara, on aurait pu envisager de le recevoir de la part du moumar. Et à l'inverse, si l'on nous avait seulement enseigné que le moumar ne peut apporter de korban ola, on aurait pu penser que la raison en est parce qu'un korban ola n'est pas obligatoire et pour cela le moumar en serait exclu. Aval chatat de riyuvahu et malekabel mine. Mais étant donné qu'apporter un korban chatat est une obligation, On aurait pu penser, comme Omar doit également s'y plier. Nous avons donc besoin des deux enseignements. En conclusion de cette sugya, lorsqu'il s'agit d'un moumar, d'un renégat pour l'ensemble de la Torah, ou en ce qui concerne la profanation du Shabbat ou de l'idolâtrie, ce qui lui donne également le statut de moumar pour l'ensemble de la Torah, la shrita d'un tel moumar sera psoula, impropre. S'il s'agit maintenant d'un renégat dans un seul domaine, même si ce domaine est justement la consommation de viande interdite, à condition que cela soit par envie et non par révolte, la shrita d'un tel moumar sera kshera, acceptée, à condition que l'on vérifie ses couteaux auparavant. S'il s'agit enfin d'un moumar le'achris, un renégat qui se révolte contre les obligations de la Torah, et qui mangerait délibérément un aliment interdit, même quand il a la possibilité de trouver des aliments kachers, cet homme a également le statut d'un renégat pour l'ensemble de la Torah, et sa shrita sera impropre. La Gemara demande, Vechol echad irtiv be'ema griyutahi, chaque fois où l'on compare l'homme à une be'ema, un animal, est-ce vraiment péjoratif? Ainsi que nous l'avons vu précédemment, où le mot be'ema faisait allusion à ces fauteurs qui, étant incapables de réfréner leurs pulsions, ressemblent à des animaux. Ve'active, il est pourtant écrit, Adam ou Behema toshia Hashem. Hashem délivre l'homme et l'animal. Ve'amar Rav Yuda Amarav. Et Rav Yuda enseigne à ce propos au nom de Rav. Elou bne Adam shen arumim bedaat, ou mesimim matzmam kabehema. Ce verset parle de gens qui ont l'esprit très fin et aiguisé, et pourtant se donnent l'aspect de Behema par leur humilité. Il est clair que dans ce verset, la comparaison de l'homme à l'animal est au contraire extrêmement laudative. La Gemara résout ainsi la difficulté. Atam ketiv adamu behema, acha behema lechudektiv. Dans le second verset que nous venons de citer, nous disons Adam ou behema, c'est-à-dire il est d'abord Adam, un homme, qui par son humilité ressemble à une behema, mais il est d'abord défini en tant que Adam. En revanche, dans le premier verset que nous avons étudié, au lieu d'employer le mot Adam, on employait le mot Behema, et seulement le mot Behema. Dans ce cas, c'est certainement péjoratif. La Gemara demande à l'inverse, Vechol echad irtiv Adam ou Behema ma'aliutahi. Est-ce que chaque fois qu'un verset écrit à la fois Adam et Behema, est-ce toujours pour évoquer une qualité? Vehaktiv vezarati et bet Israël, Zera Adam vezera Behema. Le prophète Irmia dit au nom d'Hachem, je vais ensemencer et faire se multiplier l'homme, c'est-à-dire les sages, et la béhéma, l'animal, c'est-à-dire les ignorants qui n'ont étudié ni la Torah ni la Mishnah. La comparaison entre Adam et béhéma dans ce verset est effectivement péjorative. La Gemara répond, Atam ha'chal kekra, zera Adam lechud, vezera béhéma lechud. Dans ce verset, les mots Adam et béhéma sont bien séparés. D'une part, Zera Adam, la descendance de l'homme, et d'autre part, Zera Behema, la descendance de l'animal. Il est donc ici clair que l'on ne parle pas de la même personne. En revanche, dans le verset Adam ou Behema Toshia Hashem, les deux termes sont employés ensemble. L'Agmara entame un nouveau sujet. Amar Rav Hanan, Amar Rav Yaakov Baridi, Amar Rav Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Rabban Gamliel ou Beddino, Nimnu al Shritat Kuti ve Asrua. Rav Hanan rapporte au nom des Chachamim cités que Rabban Gamliel et son Beddin, son tribunal, ont voté et décidé que la Shrita effectuée par un Kuti était interdite. Les Kutim sont un peuple de convertis par crainte qui pratiquent les mitzvot de façon approximative. Bien que dans notre Mishnah, selon une explication de Hakol Shochatim, on a voulu inclure la shrita d'un kuti lorsqu'un Israël la vérifie. Le Beit Din de Rabban Gamliel a par la suite voté et décidé que cette shrita serait psula, impropre. Amarle, Rabbi Zera le Rabbi Yaakov Baridi. Shema lo shama Rabbi, ela beshe en Israël omed al gabav. Rabbi Zera a demandé à Rabbi Yaakov Baridi. Peut-être que Rabban Gamliel a invalidé la shrita d'un kuti lorsque celle-ci est effectuée sans surveillance d'un Israël. et que Rabbi l'aurait permise lorsqu'elle est surveillée. Il n'y aurait ainsi pas de contradiction avec la première compréhension qu'on avait de notre Mishnah. Amarle Dame Aimi Rabanan, Kedelog Mire In Sheshmata. Il lui a répondu, tu sembles ne pas bien avoir étudié la question. Beshen Israël Omed Al Gabav, les mêmes Rabbae. S'il s'agissait d'une Shrita sans surveillance, aurait-on besoin de la décision du Beddin de Rabban Gamliel pour l'interdire? Il est évident qu'elle est interdite. Donc selon Rav Yaakov Baredi, lorsque Rabban Gamliel a interdit la Shrita du Kouti, c'est même lorsqu'elle est surveillée par un Israël. La Gemara demande, Kiblamine ou lo Kiblamine? Est-ce que Rabbi Zera a accepté la réponse de Rabbi Yaakov Baredi ou est-ce qu'il est resté sur sa position? C'est ce que la Gemara va résoudre à partir de cet enseignement. Tashma, viens écouter, d'Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Amar Rav Assi. Ce que dit Rav Nachman Bar Yitzhak au nom de Rav Assi. Ani raiti et Rabbi Yochanan, she'achal mishritat kuti. J'ai vu que Rabbi Yochanan a lui-même consommé de la viande d'un animal dont un kuti avait fait la shrita. Af Rabbi Assi, achal mishritat kuti. Rabbi Assi en a également consommé. Va teiba Rabbi Zera. Rabbi Zera s'interrogeait sur cet enseignement. Loshmia Lehu de Yav Shmia Lehu avomekablela. Odilma Shmia Lehu velo kibloa. Comment se fait-il que Rabbi Yochanan et Rabbi Assi aient consommé de la viande d'un animal abattu par un kouti? Est-ce parce qu'ils n'ont pas entendu l'enseignement de Rabban Gamliel, car s'ils l'avaient entendu, ils l'auraient évidemment accepté? Ou bien parce qu'ils l'ont entendu, mais ils sont d'un avis différent et ils ne l'ont pas accepté? Adar Pashit Lenafshe. Plus tard, Rabbi Zera a résolu son doute. Mistabra de Shmia Lehu Velo Kibloa. Il est plus plausible d'envisager que Rabbi Yochanan et Rabbi Assi ont entendu l'enseignement de Rabban Gamliel, mais ne le partagent pas. De Issal Kadatar Lo Shmia Lehu Veyav Shmia Lehu Avomekablela. Car si l'on voulait envisager qu'il n'avait pas entendu l'enseignement de Rabban Gamliel, mais que s'il l'avait entendu, il l'aurait accepté, et donc n'aurait pas consommé de cet animal abattu par un kouti. Echim istaya milta le michal isura. Comment envisager que cet tzadikim ait mangé un aliment interdit à la consommation? Rashta behemtan shel tzadikim en akadosh baruch hu mevitakala al yadan, tzadikim atzman lo kol sheken. Car si déjà, comme on va le voir par la suite, Hachem ne laisse pas les animaux des tzadikim consommer d'aliments interdits, à plus forte raison en ce qui concerne les tzadikim eux-mêmes. Et c'est à partir de cet enseignement que la Gemara veut résoudre le doute qu'elle a émis plus haut. Est-ce que Rabbi Zera a accepté les paroles de Rav Yaakov Baridi, à savoir que lorsque Rabban Gamliel a interdit la shrita d'un kouti, c'est même lorsqu'il y a surveillance d'un Israël? Nous poursuivons sur le daf Vav Amoud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.